Dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur 1822-1895, voici une conférence de Michel Fourier, administrateur de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne, chercheur, auteur et conférencier. Louis Pasteur et le Pays Basque, une conférence organisée par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne le 23 novembre 2022 dans le grand salon de l'Hôtel de Ville de Bayonne. Louis Pasteur et le Pays Basque, Michel Fourier.
Mesdames, messieurs, je tiens tout d'abord à vous remercier d'être venus si nombreux. Votre présence honore l'attachement que vous témoignez à la personne de Louis Pasteur, lui qui aimait dire de la vie des hommes qui ont marqué leur passage d'un trait de lumière durable, recueillons pieusement pour l'enseignement de la postérité jusqu'aux moindres paroles, aux moindres actes propres à faire connaître les aiguillons de leur grande âme. Conformément aux souhaits de la mission aux commémorations nationales, de nombreux événements se sont succédés tout au long de cette année à l'occasion du 200e anniversaire de la naissance de Louis Pasteur, cette figure majeure du progrès scientifique et social. Rappelons qu'en France, on dénombre 361 écoles, collèges et lycées, ainsi que 3354 artères ou places portant son patronyme. Ici même, à Bayonne, dans les années 1930, le conseil municipal entérina la décision de substituer à la place de la cathédrale celui de place Pasteur. Au cours de cette année 2022, la municipalité y entreprit de gros travaux afin de lui offrir un aspect plus contemporain tout en mettant en valeur la richesse des bâtiments environnants. C'est parce que la personne et l'œuvre de Louis Pasteur sont exemplaires qu'en qualité de membre de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne, j'ai souhaité associer le Pays Basque à cette volonté mémorielle. Mais avant d'évoquer ce qui le rapproche un peu de notre région, retraçons brièvement quelques épisodes de sa vie. Louis Pasteur est né le 27 décembre 1822 à Dôle, dans le Jura, dans une maison de la rue des Tanneurs. Il est le fils de Jacques-Étienne-Nette Rocky et de Jean-Joseph Pasteur, tanneur de Pau, comme ses aïeux l'avaient été avant lui. En 1827, pour des raisons professionnelles du père, la famille déménage pour s'installer à Arbois. À l'âge de 6 ans, le jeune Louis entre à l'école primaire avant d'aller s'asseoir sur les bancs du collège. Adolescent, il montre peu d'aptitude pour les études. Cependant, il exprime de réelles dispositions pour le dessin, si bien que les herboisiens le surnomment l'artiste, comme le montrent ses portraits qui nous sont parvenus. Malgré son engouement, il dut renoncer à sa passion afin de satisfaire son père, qui souhaitait en faire un enseignant. En octobre 1938, à Paris, il est inscrit à la pension Barbet, rue des Feuillantines. Mais pour l'adolescent qui n'a pas encore 16 ans, c'est une épreuve trop rude, si bien que son père est contraint de le ramener à Arbois. L'année suivante, il entre comme pensionnaire au Collège royal de Franche-Comté à Besançon. Élève sérieux, en juillet 1840, il obtient son baccalauréat S-Lettres. Ayant décelé ses aptitudes scientifiques et soucieux de l'aider, le proviseur le nomme maître supplémentaire. Cette fonction lui octroie une chambre pour travailler à son aise et un traitement qui lui permet de pourvoir à une partie de ses études. En juin 1842, devant la faculté de Dijon, il réussit son baccalauréat S sciences sans éclat en raison d'une note médiocre en chimie. Peu de temps après, il passe le concours d'entrée à l'École normale supérieure de Paris. Il est reçu, mais son rang de 15e sur 22 le déçoit, si bien qu'il renonce et revient à Arbois chez ses parents, en attendant de pouvoir se représenter l'année suivante. En octobre 1942, il retrouve Paris, loge à la pension Barbet, suit des cours au lycée Saint-Louis, tout en fréquentant la Sorbonne. En 1943, il termine ses études avec un premier prix de physique et une place de 4e au concours d'entrée à l'école normale. Dans ce prestigieux établissement, il étudie la chimie, la physique et la cristallographie. durant 3 ans, avide de comprendre tout ce qu'il découvre, impatient de découvrir tout ce qu'il ignore, il étudie des mémoires, passe des heures dans les laboratoires. Reçu 3e de sa promotion à l'agrégation des sciences physiques, il travaille auprès d'Antoine Ballard, rencontre le chimiste Auguste Laurent, avec lequel il se penche sur l'observation des cristaux de 2 acides, l'acide tartrique et l'acide paratartrique. En 1947, devant la faculté des sciences, il soutient avec succès des thèses de physique et de chimie, ce qui lui permet d'être, à moins de 25 ans, nommé docteur S. Sciences. En 1948, sa mère, comme vous pouvez le voir là-haut, le médaillon, sa mère s'éteint à Arbois, tandis qu'à la rentrée d'octobre, il est appelé comme professeur de physique au lycée de Dijon, avant d'être nommé en décembre professeur suppléant de chimie à la faculté des sciences de Strasbourg. En Alsace, il s'énamoure de la fille du recteur, Marie Laurent, une jeune femme âgée de 22 ans. Le 29 mai 1849, celle-ci devient Madame Pasteur. Plus qu'une épouse, Marie Laurent sera le témoin et la confidente de toutes ses réussites, mais également de son anxiété, de ses doutes et de ses échecs. L'année suivante, outre le temps qu'il consacre à son laboratoire, il a de bonne heure de découvrir la paternité avec la naissance de leur premier enfant, Jeanne, suivie en novembre 1851 de la venue au monde d'un garçon, Jean-Baptiste. Durant cette même année, le physicien Victor Regnault s'est employé à le faire nommer correspondant de l'Institut. En 1952, il parvient à transformer de l'acide tartrique en acide racémique. Cette découverte lui vaut d'être remarqué et fait chevalier de la Légion d'honneur. Quelques mois plus tard, son épouse donne jour à leur 3e enfant, une petite fille qui le prénomma Marie-Louise, mais qu'il appela Cécile. En septembre 1954, ses qualités scientifiques lui valent d'être nommé professeur et doyen à la nouvelle faculté des sciences de Lille. À 33 ans, sans abandonner l'étude des cristaux, ses travaux l'engagent dans une direction imprévue. À la demande d'un brasseur lillois, il accepte de s'intéresser à la production d'alcool de betterave en vue d'une meilleure conservation de la bière. Les mois passent, malgré l'échec d'une candidature à l'Académie des sciences dans la section de minéralogie en 1857, il est nommé directeur des études scientifiques et administrateur de l'École normale supérieure de Paris. Dès son arrivée rue d'Ulm, il fait aménager un petit laboratoire dans une sous-pente de l'établissement afin d'y poursuivre ses expériences. En décembre, devant l'Académie des sciences, il présente un mémoire sur la fermentation alcoolique dans lequel il affirme que la transformation du sucre en alcool et en gaz carbonique provient du travail organisé de globules blancs. En 1958, la famille s'accroît avec la naissance d'une nouvelle petite fille qu'il prénomme Marie-Louise. L'année suivante, alors que sa fille aînée, Jeanne, est emportée par une fièvre typhoïde à l'âge de 9 ans et demi, Pasteur s'élève contre Félix Archimède Pouchet, un fervent avocat de la génération spontanée, théorie, rappelons-le, largement présentée, partagée par de nombreux membres de la communauté scientifique de l'époque. Pour ses travaux sur la fermentation, l'Académie des sciences lui décerne en janvier 60 le prix de physiologie expérimentale. D'août à septembre, repoussant les argumentations de Pouchet, il se transporte dans différents lieux afin d'y opérer toute une série de prélèvements d'air dans de petits ballons de verre, ce qui lui permet de soutenir l'hypothèse que ce sont les poussières en suspension dans l'air qui sont à l'origine de la vie dans les infusoires. À la fin de l'année 62, alors qu'il attend ses 40 ans, il se présente pour la 3e fois à l'Académie des sciences. Cette fois, il est élu grâce au soutien de ceux qui, comme lui, s'opposent aux théories des générations spontanées. En juillet 63, son épouse donne jour à leur 5e enfant, une petite Camille. Enfin, Au mois de novembre, il est nommé à la chaire de géologie, physique et chimie à l'École des Beaux-Arts de Paris, poste qu'il occupa jusqu'en 1867. Afin de poursuivre ses travaux, lors de ses moments de repos, il décide de faire construire à Arbois un modeste laboratoire pour parfaire ses recherches sur le vin et rédiger un mémoire sur la fermentation aseptique. Lors d'une conférence à la Sorbonne, il démontre que sa méthode de soumettre à une température de 55 à 60 degrés centigrades élimine les germes et guérit le vin, la bière, le vinaigre, le lait. Grâce à cette découverte qui porte son nom, la pasteurisation nous permet de conserver une multitude de produits. Cette découverte fut une véritable révolution pour la santé publique, révolution qui fit de Pasteur une célébrité reconnue dans le monde entier. Malheureusement, au milieu des honneurs, en juin 65, il a la douleur de perdre son père. Deux mois plus tard, c'est sa fille Camille qui s'éteint d'une fièvre typhoïde alors qu'elle n'a pas encore 24 mois. Malgré son chagrin, en décembre, il est reçu au palais des Tuileries où, devant Napoléon III, il expose l'ensemble de ses travaux sur les maladies du vin. En mai 66, sa fille Cécile, que vous voyez au milieu, est à son tour emportée par une fièvre typhoïde à l'âge de 12 ans. Avec Jeanne, leur fille aînée disparue en 59, les cinq enfants que Louis Pasteur et Marie-Laurent ont donné naissance, la mort leur en a repris trois. À la demande du ministre de l'Agriculture, Jean-Baptiste Dumas, natif d'Alès, dans le Gard, il accepte de se rendre dans les Cévennes afin d'étudier les maladies des vers à soie. Depuis plusieurs années, de nombreuses magnaneries étaient frappées par un mal mystérieux qui ruinait les sériculteurs et l'industrie des tisserands. En sélectionnant des œufs de manière rigoureuse, il parvient à enrayer l'épidémie en démontrant que la source de transmission était héréditaire. En pédagogue, il recommanda aux élèves, aux éleveurs de sélectionner les graines, allant jusqu'à leur donner ce petit conseil. À la fin de l'accouplement, mettez la femelle à pondre sur un petit carré de gaz. Lorsqu'elle sera morte, recherchez au microscope si elle renferme des corpuscules. Si oui, détruisez les œufs et ne gardez que les siens. De retour à Paris, il crée un laboratoire de chimie physiologique à l'École normale, tandis qu'il est nommé professeur de chimie organique à la Sorbonne. Le 1er juillet 67, il reçoit le Grand Prix de l'Exposition universelle pour ses travaux sur la pasteurisation. Convié par l'empereur au château de Compiègne, il y fait une conférence sur la biologie. Prenant conscience de ce que peuvent apporter les découvertes du savant dans l'amélioration de la vie quotidienne de la société, Napoléon III décide qu'il appartiendra désormais à l'État de pourvoir aux besoins de la recherche. L'année suivante, alors qu'il publie son étude sur le vinaigre, qu'il voit l'agrandissement de son laboratoire à l'École normale, qu'il est fait commandeur de la Légion d'honneur, le 19 octobre, il est victime d'une attaque de paralysie qui le laisse hémiplégique à l'âge de 46 ans. S'il reste handicapé du bras et de la jambe gauche, ses capacités intellectuelles sont intactes. Pour sa convalescence, il se rend en Autriche, séjourne dans un domaine du prince impérial à Vincentina, près de Trieste, où il reprend ses travaux sur la maladie des vers à soie. En janvier, il revient à Alès afin de perfectionner le grainage en grand. En mai 1870, alors que le Second Empire est sur le point de vaciller, comme des millions d'électeurs, il approuve le plébiscite en faveur de Napoléon III. Le 27 juillet, un décret le nomme sénateur de l'Empire pour service rendu à la science. Mais en raison du départ du souverain pour Metz, celui-ci n'est pas publié au journal officiel. Le 5 septembre, brisé par l'effondrement du régime, il adresse au maréchal Vaillant une dépêche où il rappelle son admiration envers le souverain et son épouse. « Je me souviendrai éternellement de leur générosité. Jusqu'au dernier jour, je resterai fidèle à leur mémoire. » Au cours du mois de janvier 71, alors que les troupes allemandes bombardent le Muséum d'histoire naturelle de Paris, il prend position contre la Commune. En avril, poursuivant ses travaux sur la bière, il se rend à la brasserie Kund à Chamalières avant de gagner Londres et visiter des brasseries anglaises. Montrant des signes de fatigue, en mai 72, il fait valoir ses droits à la retraite de professeur à la Sorbonne. Toutefois, il entend poursuivre ses travaux sur la bière. L'année suivante, bien qu'il ne soit pas médecin, il est élu membre de l'Académie de médecine. En juillet 1974, la Chambre des députés vote en sa faveur une récompense nationale de 12 000 francs, ce qui lui permet d'installer un nouveau laboratoire à Arbois afin d'affiner ses recherches sur les fermentations. En dépit de son handicap, soucieux du bien public, il se porte candidat au siège de sénateur. Malgré sa popularité et une campagne dénonçant l'insuffisance de la recherche scientifique, ses positions conservatrices le mènent à l'échec. En 1877, avec l'aide de Charles Chamberlain et d'Émile Roux, il entame des recherches sur le rouget des porcs, le choléra des poules et la maladie du charbon qui frappe principalement les moutons. Au cours de l'été, alors qu'il est à Arbois, il fait installer des serres dans sa vigne pour en finir avec ceux qui réfutent sa théorie sur les fermentations. Devant ses confrères de l'Académie de médecine, il fait en avril 1978 une importante communication sur sa théorie des germes et ses applications à la médecine et à la chirurgie. L'année suivante, il est nommé membre de la Société centrale de médecine vétérinaire pour ses travaux sur le choléra des poules. Le 4 novembre, il a le bonheur de marier sa fille Marie-Louise, âgée de 20 ans, au docteur René Valérie Radeau, qui deviendra son secrétaire particulier et également son biographe. En décembre 80, suite à au décès d'un enfant mordu par un chien, il émet l'idée d'entreprendre une étude sur la rage, comme toujours. Avant d'expérimenter, il rassemble toutes les recherches qui ont été faites. Grâce aux travaux de Victor-Pierre Galtier, professeur à l'école vétérinaire de Lyon, il sait que la rage est transmissible du chien à un autre animal, que le principe infectieux est contenu dans la salive, que le lapin est l'animal de choix dans l'étude de la rage, que le virus se propage par voie nerveuse, qu'il est possible d'immuniser les animaux par injections intraveineuses et point essentiel que la solution pour vaincre la rage réside vraisemblablement dans un traitement préventif après morsure. Fort de toutes ces précisions, il lui reste à trouver un traitement adéquat pour parvenir à vaincre la rage. Cependant, en février 81, il communique à l'Académie des sciences le résultat de ses travaux sur les vaccins charbonneux et sa méthode d'atténuation du microbe. Au mois de mai, il se rend à Pouilly-le-Fort, près de Melun, dans la région parisienne, où il inocule son vaccin contre le charbon à un groupe de 25 moutons, alors qu'un groupe témoin ne reçoit aucune injection. Un mois plus tard, l'état des inoculés est satisfaisant, alors que l'ensemble des non-vaccinés ont perdu. Le 5 juin, le succès de Pasteur est complet. Tous les moutons vaccinés se portent admirablement bien. Mais sa grande préoccupation reste la rage. Dans son laboratoire, avec ses collaborateurs, il inocule à des lapins du mucus prélevé dans la bouche d'un enfant mort de la maladie et délié dans de l'eau distillée. 36 heures après, et les animaux meurent. Examinant leur sang avec son modeste microscope, il y découvre un organisme nouveau ressemblant par sa forme au microbe du choléra des poules. Ils cultivent cet organisme et constatent que la virulence diminue avec l'ancienneté des cultures. L'expérience renouvelée sur des chiens montre le même résultat. Les animaux meurent sans présenter les symptômes de la rage. Après réflexion, il imagine qu'il est potentiellement en mesure d'atténuer le virus rabique. Auparavant, en mai 81, lors d'une séance à l'Académie des sciences et à l'Académie de médecine, il avait rappelé à ses confrères qu'en 1879, dans le Béarn, à Pau, le docteur Paul-Henri Dubouet avait soutenu que le système nerveux et le bulbe étaient particulièrement intéressés et actifs dans le développement de la rage. C'est précisément lors de cette séance que Pasteur annonça qu'il était arrivé à diminuer la durée de l'incubation et qu'il était désormais maître de communiquer la rage. En juillet, il est élevé à la dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur, auréolé de gloire, il se présente à l'Académie française où il est élu au premier tour de scrutin. En avril 82, lors de sa réception sous la coupole, au fauteuil d'Émile Littré, il fait le procès du positivisme dont le philosophe Auguste Comte fut le grand pontife et Émile Littré le grand apôtre. En 83, convaincu du bien fondé de ses travaux sur la rage, l'Assemblée nationale et le Sénat votent à l'unanimité la proposition du gouvernement afin de porter sa pension à 25 000 francs. Au cours de l'année 84, ses expériences sur la rage s'intensifient. Face aux difficultés qu'il rencontre pour parquer les chiens nécessaires à ses travaux, l'État met à sa disposition à Marne-la-Coquette, sur le site de Villeneuve-l'Étang, les bâtiments nécessaires pour l'installation d'un chenil. Au mois d'août, il se rend à Copenhague, où, devant une foule de savants, il explique le principe général des vaccinations contre les maladies virulentes, tout en insistant sur son intention de parvenir rapidement à vaincre la rage. C'est au cours de ce voyage qu'il sympathise avec le docteur Granchet, un pédiatre titulaire de la chaire de clinique des maladies de l'enfant. Au début de l'année 85, les résultats qu'il obtient sont très encourageants. Avec son équipe, il est parvenu à avoir 50 chiens de tout âge et de toute race réfractaires à la maladie sans avoir rencontré un seul échec. Mais pour Pasteur, le but n'est pas encore atteint. Ce qu'il voudrait, dit-il, c'est la possibilité d'oser traiter un humain mordu sans aucune crainte d'accident quelconque. Au matin du 6 juillet 85, il accueille dans son laboratoire de la rue d'Ulm trois personnes arrivant d'Alsace occupée. Théodore Vaughan, marchand épicier à Maisangotte près de Célestat, mordu au bras le 4 juillet par son propre chien. Joseph Meister, âgé de 9 ans, mordu également par le même chien et portant de nombreuses morsures à la main, aux jambes et aux cuisses, et sa mère indemne de toute blessure. Face à Joseph Meister, l'inquiétude de Pasteur est grande. Soucieux, il interroge Alfred Vulpian et Joseph Granchet. En raison du grand nombre de blessures, ils conviennent que l'enfant est fatalement exposé à prendre la rage. N'ayant pratiquement aucune chance de survie, tous décident que le jour est venu d'appliquer la méthode qui donne d'excellents résultats sur les chiens. Pasteur est bouleversé. A-t-il le droit de vacciner, lui qui n'est même pas médecin sain ? Finalement, c'est Joseph Granchet qui prend l'initiative de mettre en jeu sa réputation et sa carrière. À 20h, muni d'une seringue renfermant une solution de moelle de lapin mort au rabis le 21 juin et conservée depuis 15 jours à l'air sec, Granchet procède à la première injection. Les jours suivants, il renouvelle son geste 13 en 10 jours avec des moelles de plus en plus récentes jusqu'à employer le 16 juillet une moelle d'un jour. Après 3 mois et 3 semaines, la rage n'ayant pas paru, Joseph Meister est considéré comme sauvé. pasteur pouvait être satisfait, mais par prudence, il préféra attendre le 26 octobre pour exposer devant ses confrères de l'Académie des sciences le protocole qu'il avait suivi. S'il revendiqua avoir trouvé le traitement contre la mage, jamais il n'ignorera ce qu'il devait au professeur Granchet. Entre-temps, le 20 octobre, Pasteur vit arriver un nouveau cas, Jean-Baptiste Juby, un jeune berger du Jura mordu 6 jours auparavant à Villers-Farlay. Avec la même bienveillance et suivant le même protocole, Granchet pratiqua la série de piqûres qui empêcha la rage de se déclarer. En quelques mois, ce ne sont pas moins de 350 personnes venues de tous les coins d'Europe et même d'Amérique du Nord qui reçurent le traitement. Le 1er mars 86, face à ses confrères de l'Académie de médecine, Pasteur déclara qu'il était désormais nécessaire de créer un établissement vaccinal. Une souscription publique fut ouverte, aussitôt les dons affluèrent. Mais Pasteur est également l'objet de violentes attaques, mettant en exergue les rares mordus traités tardivement et décédés dans d'atroces souffrances. Le Figaro et le journal Le Matin menèrent une campagne d'injures, de calomnies, mais leurs propos restèrent vains, les mordus ne cessaient d'affluer. En mars 87, la réalisation de l'Institut Pasteur se concrétise. Un vaste terrain est acquis dans le quartier de Vaugirard à Paris, rue du Tau. En juillet, Pasteur est élu secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, mais le 23 octobre, il est victime d'une seconde attaque de paralysie qui altère son élocution. L'Institut pour le traitement de la rage est inauguré en novembre 88 par le président de la République, Sadi Carnot. Ne pouvant s'adresser à l'auditoire, c'est son fils qui lit son discours qui s'achève par ces mots. « S'il m'était permis, Monsieur le Président, de terminer par une réflexion philosophique provoquée en moi par votre présence dans cette salle, je dirais que deux lois contraires semblent aujourd'hui en lutte. Une loi de sang et de mort qui oblige les peuples à être toujours prêts pour le champ de bataille et une loi de paix, de travail, de salut qui ne songe qu'à délivrer l'homme des fléaux qui l'assiègent. À partir de 89, ses forces déclinent. Cependant, en décembre 92, à l'occasion de ses 70 ans, une cérémonie est organisée dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. L'événement fut immortalisé par Jean-André Rixin. Dès le lendemain de la cérémonie, l'État exprima le désir de représenter tous les savants de l'époque. Le tableau de 2,80 m. sur 5,48 m représente 408 personnages. À titre de comparaison, le sacre de Napoléon Ier par David, 6,29 m sur 9,80 m, ne regroupe que 150 personnages. Après 8 années de travail, ce tableau fut présenté au salon de 1902. Il est aujourd'hui conservé à Dôle, dans le Jura, dans l'ancien couvent de la Visitation. En cette même année 92, son ami Joseph Granchet est victime d'une affection pulmonaire. Pour recouvrer la santé, il part tout d'abord pour Arcachon, avant de gagner le Pays Basque et la petite station climatique de Campo. Deux années plus tard, durant l'été 88, l'état de santé de Pasteur se détériore brutalement alors qu'il séjourne à Arbois. Ramené à Paris, ses médecins l'envoient se reposer à Villeneuve-l'Étang, où il s'éteint le 28 septembre, dans le domaine qui avait été mis à sa disposition pour ses recherches sur la rage. Après des obsèques solennelles, il fut inhumé dans le sous-sol de l'Institut Pasteur, dans une crypte entièrement recouverte de marbre que l'on peut toujours visiter. En 1933, son petit-fils, Louis Pasteur Valéry Radeau remit à l'Institut tous les objets ayant appartenu à ses grands-parents afin que l'appartement que son aïeul avait occupé soit transformé en musée. Ce musée renferme un portrait réalisé par le Lyonnais Léon Bonnat, portraitiste officiel de la Troisième République. Cette toile figura au Salon de Paris en 1886. La sévérité de Pasteur, représentée debout en tenue de ville sur un arrière-plan neutre, se trouve adoucie par le geste protecteur de la main du savant à l'égard de sa petite fille Camille. Cette toile mesure 1,70 m sur 1,30 m. Elle est signée en bas à gauche, L. Bonnat. Ce portrait fut commandé au maître Bayonnais par Jacob Christian Jacobsen, habituellement appelé J.C. Jacobsen, directeur des brasseries Carlsberg à Copenhague, et offert à Madame Pasteur en remerciement des recherches que son époux avait menées sur la fermentation. Si Léon Bonnat n'évoque pas dans ses souvenirs la réalisation de cette toile, quelques correspondances aujourd'hui conservées à la Bibliothèque nationale de France nous instruisent sur leur relation. Dans un premier temps, Pasteur est probablement venu poser dans l'atelier de l'artiste, puis, afin de donner à la toile une allure plus intimiste, il fut demandé au peintre d'y ajouter sa petite fille. Cette modification semble avoir posé quelques problèmes, comme l'indique Léon Bonnat. Veuillez prier Madame Valérie Radeau d'amener demain Mademoiselle Camille. Je vais essayer de nouveau de la peindre auprès de vous. Les relations cordiales entre le peintre et le savant perdurèrent. En 89, Léon Bonnat sollicita Pasteur afin de présenter son tableau à Paris lors de l'exposition universelle. Cette demande peu formelle fut certainement faite très tardivement, comme l'indique cette lettre dont je vais vous lire quelques extraits. « Vous voudrez bien, n'est-ce pas, me prêter votre portrait pour le Champ de Mars? Ce sera la dernière fois que je le réclamerai de votre obligeance. La dernière limite est fixée au 5 avril. Ça paraît irrévocable. Il faudrait donc le laisser enlever par les garçons de M. Dizan le 3 ou le 4. » Si, ainsi que je n'en doute pas, vous consentez à ce que je vous demande, ne prenez pas la peine de me répondre. Donnez tout simplement l'autorisation de le laisser enlever quand on s'en présentera de ma part. Au bas de la feuille, sur le même ton amical, Pasteur répondit à son confrère. « Madame Pasteur est désolée, mais comment refuser la demande d'un tel maître ?» Ajoutons qu'une photographie de ce tableau réalisé par Braun figure dans les collections du musée Bonnat et Neuf. Auparavant, en 88, Carl Jacobsen, le fils de J.C. Jacobsen, avait organisé à Copenhague une exposition de l'art français placée sous la présidence d'honneur de Pasteur. Pour répondre au souhait d'immortaliser cet événement à travers un tableau, Léon Bonnat fut sollicité pour demander à Pasteur de bien vouloir se soumettre à une séance de pose, comme l'indique une lettre. Un peintre de très grand talent, nommé Croyer, est chargé par Jacobsen de peindre un tableau représentant tous les artistes, ainsi que les plus grands Français ayant exposé à Copenhague, ayant contribué à l'éclat de son pays. Ma rédaction n'est pas très claire. Bref, voici ce que Croyer voudrait. Il voudrait vous prier de vous rendre lundi prochain, 26 à 1h, pour vous faire photographier à notre tête au Palais des Champs-Élysées, 20 minutes au plus pour faire des photographies instantanées. Que dois-je répondre? Oui, bien sûr. Afin de réaliser cette toile de 73 cm sur 1 mètre, chaque membre du comité se soumit à une séance photographique afin de servir de modèle au peintre. À travers ce cliché légendé, nous pouvons voir la place occupée par chaque participant, dont Pasteur et Léon Bonnat, que je vous ai souligné en jaune. Lors de l'exposition, le tableau de Bonnat représentant Pasteur et sa petite fille fut également exposé, comme l'indique cette lettre adressée au savant. Je viens d'écrire à M. Antonin Proust, qui est à la tête de l'exposition de Copenhague. Je croyais que votre portrait était déjà en route. Je présume qu'il va le faire prendre aussitôt, mon mot reçu. Mais la postérité n'a pas retenu ces tableaux. Cette renommée revient à celui d'Albert Edelfelt, présenté au Salon de Paris en 86. Le succès fut tel que l'État s'emporta en acquéreur, ce qui plaça le peintre dans une position délicate puisqu'il l'avait promise à Madame Pasteur. Ayant horreur d'exécuter des copies, il demanda à son amie finlandaise Hélène Sergeval de réaliser une copie qu'il acheva. Finalement, il existe trois versions de ce portrait. Une ébauche très aboutie appartenant aux collections nationales finlandaises d'Helsinki, le tableau acheté par l'État conservé au musée d'Orsay et une copie d'Hélène Sergeval retouchée par Albert Edelfeld conservée au sein de l'Institut Pasteur à Paris. Après ces indications picturales, retrouvons Pasteur lors des premières vaccinations antirabiques. Une cinquantaine de lettres conservées à la Bibliothèque nationale de France témoignent des relations ayant existé entre Louis Pasteur et Joseph Granchet. Les premiers échanges sont des télégrammes de temps de 1885 adressés au savant parti se reposer chez sa fille au château de Marot près d'Avallon dans l'Yonne. Au soir du 23 juillet 85, alors que le jeune Joseph Mester et sa mère viennent de repartir pour l'Alsace, Granchet fait le point sur l'état de santé du jeune berger. Joseph est très bien portant. Il boit, mange et dort. Il grandit et engraisse. Les traces des inoculations pratiquées ont complètement disparu et les morsures du doigt et des jambes sont cicatrisées. Il faut donc espérer que votre tentative réussira pleinement. Monsieur Vulpian, que j'ai aujourd'hui vu et que j'ai rencontré, est enchanté. Le 20 octobre 1985, Granchet débuta la série d'injections sur Jean-Baptiste Jupille. Dès que l'information se répandit dans la presse, des mordus affluaient. Afin de pouvoir répondre aux sollicitations, Pasteur trouva rue Vauquelin un baraquement pour l'installation d'un petit laboratoire dont il confia la direction à Joseph Granchet. C'est dans ce lieu de fortune que des mordus arrivant du Pays Basque furent accueillis. Le premier fut Jean Lorda, un jeune berger de 36 ans, mordu alors qu'il gardait des vaches et des porcs sur la commune de Las, près de Saint-Jean-Pied-de-Port. Consulté, le docteur Inda, conscient de la gravité de la situation, l'invita à partir pour Paris. À son arrivée, le 21 octobre 85, Lorda fut accueilli par Pasteur qui consigna dans un registre les détails de son traitement. L'observation de ce sujet est des plus intéressantes. Mordu le 25 octobre, Lorda est arrivé à mon laboratoire que le 21 novembre, le 27e jour après sa morsure. Le jour où il fut mordu, 7 porcs et 2 vaches le furent également par le même chien. Or, les 9 animaux sont morts de la rage. Les porcs, après une courte période d'incubation de 15 jours à 3 semaines. C'est après la mort par rage de ces porcs que Lorda, effrayé, parti pour Paris. La première vache mourut 4 jours après sa morsure, la seconde 52 jours après. Je dois le résultat de ces faits si curieux à M. Zinda, vétérinaire habitant Saint-Palais. Une observation de son rapport ne doit pas être omise. C'est qu'aussitôt qu'après leur morsure, les vaches avaient été cauterisées profondément au fer rouge. J'ai eu des preuves assez nombreuses de l'inefficacité des cautérisations, dont en certains cas, de celles mêmes faites au fer rouge et sans retard. La santé de Lorda est aujourd'hui parfaite. Son traitement a été terminé le 28 octobre dernier. Au Pays Basque, la presse s'empara d'annoncer son retour, comme l'indique le journal L'Avenir du 1er décembre 1985. Très sensible aux gestes de Pasteur, les membres de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne lui adressèrent leurs remerciements. Il y a 3 mois, le nommé Lorda fut mordu par un chien enragé au milieu de circonstances fortes et mouvantes. On a eu la bonne inspiration de l'envoyer à Paris où, à la suite du traitement que vous avez bien voulu lui faire suivre, il est revenu moralement et virtuellement guéri. La Société des sciences, lettres et arts ne serait pas satisfaite si elle ne pouvait inscrire perpétuellement votre nom dans son bulletin comme président honoraire à la tête de la liste de ses membres. Face à cette marque d'attention, Pasteur répondit Je suis très touché des paroles indulgentes de vos félicitations concernant le traitement de la rage. Plusieurs compatriotes ont pu en profiter. Lorda, dont vous m'entretenez, était un sujet des plus intéressants parce que sa morsure remontait déjà au 25 octobre, alors qu'il s'est présenté à mon laboratoire le 21 novembre. Je remercie également votre société de m'avoir conféré le titre de président honoraire que j'accepte avec empressement. Le même jour, dans les environs de Bidart, un chien enragé se jeta sur Jean-Baptiste Durchetti, un marchand de vins âgé de 39 ans. Un peu plus loin, l'animal rencontra deux jeunes gens qui ramassaient du cresson, les frères Ourestalassou. Le premier eut la main gauche et la cuisse lacérée. Le second ne reçut qu'une faible morsure au bras. Puis, ce fut Jean-Baptiste Garat, 29 ans, qui eut le bras gauche mis en sang. Une ménagère et un jeune garçon auquel il arracha son béret et une partie de la chevelure. Poursuivant son chemin, près du lac de Brindos, la bête s'attaqua à une couturière d'Anglette, Jeanne Bergeuse, âgée de 18 ans. Vers 9 heures, non loin du tunnel de Mousserolles, l'aiguilleur Pébart fut attaqué par ce même chien, avant qu'il ne pénètre dans la rue des Cordeliers et se jette sur un bouvier qui parvint à se garer de ses crocs. Quelques instants plus tard, une laitière de Saint-Pierre-du-Rhume, la femme d'Armandraille, ne put se soustraire à la folie de l'animal et fut profondément mordue à la main. Un peu plus loin, en face de la corderie Lacoin, Courdelmont, contremaître aux salines de Villefranque, fut mordu à la jambe. Finalement, l'animal fut abattu à Saint-Pierre-du-Rhume par le cordonnier Lartigue. En apprenant ce carnage et le risque qu'encouraient les victimes, Artois, directeur du tramway Bayonne-Anglette-Biarritz, et son gendre Montbert se rendirent chez le comte de Hérin, propriétaire de la villa Héliante sur la côte des Basques. Sans perdre un instant, ils visitèrent les mordus afin de les convier à bénéficier au plus vite des soins de Pasteur. Alors que certains sont déjà partis vers des guérisseurs, d'autres n'ont aucune idée du risque qu'ils encourent. Seuls Garat et Ourestalassou acceptèrent de partir pour Paris. Munis des recommandations du docteur Adhémat, il quitte Bayonne le 11 janvier 1986. Deux jours plus tard, Pébart part à son tour, et le 15 janvier, ce sont les femmes d'Armandraille et Berger, accompagnées de Durquetis et Courtelmont, qui se décident à rejoindre la capitale. Avec émotion, ils se retrouvent dans le modeste cabinet de la rue Vauquelin. Granchet arrive le premier, suivi de Pasteur, tenant son registre à la main. À l'appel de son nom, la personne se place devant le docteur, découvre un point de son abdomen à la partie supérieure, un jour à droite, un jour à gauche. Un aide aspire dans un flacon une certaine quantité de liquide à l'aide d'une seringue qui passe à Granchet. Celui-ci introduit l'extrémité de l'aiguille dans le tissu cellulaire sous-cutané, pousse le piston et en quelques secondes, l'opération est terminée. L'inoculation fut renouvelée durant 7 jours, chaque jour avec un virus différent jusqu'au plus virulent. Outre le registre sur lequel Pasteur notait l'ensemble de ses renseignements médicaux, il avait pour l'habitude de faire photographier, avant leur départ, tous ceux qui avaient bénéficié du traitement. C'est ainsi que le musée de l'Institut Pasteur conserve ses clichés des mordus qui ont accepté de poser devant l'appareil. En janvier 1986, juste avant son retour au pays, les Bayonnais posèrent donc devant l'appareil photographique. Seul Bertrand Ourestalassou semble avoir refusé. Classé dans un album, chaque photographie comporte le nom de la personne, d'ailleurs souvent mal orthographiée, ainsi que le numéro d'inscription sur le registre du savant. À Bayonne, face aux bénéfices du traitement, la population est plus confiante. Le 15 janvier, un chien présumé enragé est abattu au quartier Mousserolles. Le cadavre soumis à l'examen du vétérinaire Noguès permet de certifier qu'il était atteint de la rage. Au quartier Saint-Léon, le 9 février, un chien tenu à l'attache au château de Logan, propriété de la famille Fourcade, rompit sa chaîne. Dans sa fuite, il mordit plusieurs animaux avant d'être retrouvé et abattu près du pont d'Urdin, en route de Bayonne. Afin d'assurer la tranquillité publique, le commissaire de police demanda au journal L'Avenir d'insérer une note à l'intention des propriétaires d'animaux. Le 10 février au soir, un chien bulldog gris-jaune a mordu près du château vieux et un peu avant d'arriver à la poterne, un petit garçon. Vu les cas d'hydrophobie constatés dernièrement, voire même hier, le commissaire croit de son devoir de prier le propriétaire de cet animal de vouloir bien se faire reconnaître afin que son chien soit soumis à l'examen d'un vétérinaire. Cette démarche de sa part aura pour but de tranquilliser les parents de l'enfant, lesquels sont très perplexes ou bien déterminés à prendre toutes les précautions nécessaires. À Paris, alors que Pasteur est parti se reposer en Italie, Grancher lui adresse des nouvelles sur les traitements en cours. Le petit Rouvière, mordu en septembre et traité en octobre, est mort hier soir. Voilà ce qui s'est passé. Cet enfant, très nerveux, très impressionnable, m'a dit le père. Cet enfant, en revenant de l'école mardi dernier, gaise et content, bien portant, reçu dans le dos un coup violent d'un de ses camarades. En retentant, il se plaignit vivement à son père. Cependant, il put aller en classe le mercredi. Jeudi, il s'est alité et est mort vendredi. Dans une autre lettre, Grancher lui fait savoir que d'un commun accord avec Émile Roux, qu'il propose un nouveau mode d'inoculation. Vous y verrez que la première série s'arrête à la moelle de 3 jours et que la deuxième va jusqu'à celle de 2 jours. Roux pense que nos moelles de gros lapins de 3 jours valent en richesse au moins autant que celles des lapins plus petits venant de Russie. Dites-moi si vous approuvez ce mode et nous y tiendrons. Puis, il évoque les plans de l'Institut. J'ai demandé aujourd'hui de nouveaux changements relatifs à la place que doit occuper le salon d'honneur et la bibliothèque-galerie. Vous y verrez entre autres choses votre habitation indépendante de l'Institut, en y étant relié cependant par la plus facile communication. Tout s'arrange à merveille. Alors que le docteur Peters ne cesse d'épiloguer sur les échecs du traitement, le 6 janvier 87, avec sensibilité, Grancher réconforte Pasteur. Ne vous émouvez pas de tout cela. C'est, je l'espère, la fin de nos ennuis. Si nous abordons la situation de front et comme il convient devant la société médicale, c'est-à-dire habitués aux revers et aux échecs, nous serons compris. À l'Académie des sciences, chaque séance est l'occasion de vifs échanges. Le 19 janvier 87, Grancher trace à Pasteur. Enfin, nous voilà débarrassés pour le moment de Peters et de ses acolytes. En février, Grancher fait le point sur les nouvelles vaccinations. Ici, tout va bien et les mordus ne nous laissent pas chômer. Avant-hier, 28 nouveaux sont venus de divers points du territoire. Ce matin, 3, pas d'accident nouveau. Le 20 février, il écrit « Rien de nouveau au laboratoire ». Nous avons vacciné depuis le 1er février 123 personnes, pas d'accident depuis la vaccination du 15 décembre. Après des mois de tractation, l'achat des terrains pour la construction de l'Institut est signé le 20 mars 87. Dans une lettre, Grancher fait part de ses dernières activités. Nous voici en possession d'un vaste terrain et j'espère que vous pourrez prochainement sceller la première pierre de l'édifice qui parlera aux générations futures du génie de M. Pasteur, de son amour pour la science et de la France. Puis, il évoque la construction. Les plans sont à peu près arrêtés et j'irai peut-être les soumettre à votre approbation. Chaque pavillon aura 3 étages, rez-de-chaussée, premiers et deuxièmes, plus sous les combres, des chambres de serviteurs, des débarras. La longueur du pavillon de chaque côté de la galerie centrale serait de 29 mètres au lieu de 20 mètres, la largeur de 14,50 mètres, soit 13 mètres à l'intérieur. Le rez-de-chaussée serait consacré au premier étage, le premier à un laboratoire d'enseignement, le deuxième à un laboratoire de recherche. Parallèlement, le pavillon 2 aurait en rez-de-chaussée le charbon et un laboratoire d'enseignement, au deuxième, le laboratoire de recherche. Au cours du mois d'avril 87, Granchet fait savoir à son maître qu'au mois de mars, 160 personnes ont été vaccinées. Mais trois jours plus tard, il avertit son maître de la mort d'un Espagnol, 10 jours après la fin des injections. Le malheureux avait reçu 23 morsures, dont plusieurs à la tête. Ce sont là les accidents auxquels il faut s'attendre et que nous ne pourrons jamais éviter. Il avait reçu un traitement très longtemps prolongé, du 23 février au 23 mars, mais sans dépasser de la moelle de 5 jours. À son habitude, Pasteur s'inquiète, ce qui conduit Granchet à lui déclarer « Mais pensez-vous que nous puissions sauver tous les mordus ? Je ne le crois pas. Quelques-uns mourront malgré tout. Et tant que nous aurons que 2 morts sur 520 traités, ces 2 morts, après morsure grave de la face, nous sommes dans des conditions excellentes pour se tenir que la méthode est merveilleusement efficace, qu'elle est inoffensive. » Soudainement, en septembre 88, la santé de Granchet se détériore. Il quitte Paris pour aller séjourner à La Malou-les-Bains. Début 89, il revient à Paris, mais à peine est-il de retour qu'il est victime d'une sérieuse affection pulmonaire. Convalescent, en 91, il est envoyé dans le sud-ouest, à Arcachon, station climatique créée par les frères Isaac et Émile Perret. Au reçu d'une lettre pleine de morosité, Pasteur prodigue à Granchet quelques conseils. « Pourquoi vous affectez-vous à ce point? N'a-t-il pas 1000 fois raison, votre médecin, de vous défendre, de reprendre vos leçons? Tous vos amis en feraient autant. Cela n'indique aucune aggravation de votre état. Un peu de philosophie, je vous en prie. » Bournaer est persuadé que votre médecin est beaucoup trop médecin. À la teste de Buch, le médecin en question n'est autre Gustave Hameau. Ce patronyme n'est pas du tout inconnu à Granchet. Il sait que le père de celui-ci, Jean Hameau, avait rédigé en 1836 une étude sur les virus qui ne fut publiée qu'en 1847 dans la Revue médicale. Les hypothèses mises en évidence dans ce mémoire fait de ce modeste chercheur un des précurseurs de l'œuvre pasteurienne. Gustave Hameau avait une fille, Catherine Rose, qui avait épousé Jules Fagal, habitant de Cambon. La petite ville avait la particularité, il y avait toujours, des termes riches en eau sulfureuse, connues depuis 3 siècles, que Jules Fagal s'employait justement à dynamiser. C'est Gustave Hameau qui décida Joseph Granchet à venir s'y reposer. Le 16 novembre 92, de la villa Souberbielle, Granchet écrit à Pasteur : Nous voici depuis 10 jours à Cambon et je ne peux pas tarder plus longtemps à vous donner de mes nouvelles. Elles sont bonnes et sauf 2 ou 3 jours pluvieux, le temps a été beau. Je n'espère pas cependant guérir, mais je demanderai une existence supportable. Espérons que cela viendra par survenir. La bicyclette a l'air pure, le repos et le temps aident. Voyez que ma médecine est toute naturelle et qu'elle emprunte peu de choses à la pharmacie. Ce n'est pas pour vous déplaire, j'en suis sûr. 4 jours plus tard, Granchet revient vers Pasteur. « Je suis bien touché de votre bonne lettre concernant la méthode thérapeutique de Prof. Sécard. Certes, je suis justifiable d'une thérapeutique, mais je ne partage pas votre croyance optimiste. Je suis bien fâché d'être d'une opinion radicalement différente de la vôtre, et peut-être vous convertirez-vous bientôt, car nous rentrons dans quelques jours. Nous voici au 20 novembre, comme le temps passe vite. » Et voici venir l'hiver, je m'en demanderai un nouveau congé. Appréciant la douceur de Cambon, le couple Granchet aime y revenir. Deux ans après y avoir découvert les charmes du Pays Basque, ils achetèrent les fermes de Mignotenia et de Legoria, dominant une boucle de la Nive, afin d'y édifier la villa Rosaenia, avec un grand balcon entourant le premier étage et des pans de bois sur les parties hautes du corps principal. Malgré son éloignement, Granchet continua d'échanger avec Pasteur, telle cette lettre en date du 3 mars 1994. Bien que radical et libre penseur, à Cambo, Joseph Granchet participa à la vie publique en devenant conseiller municipal dès mai 1896, puis maire de 1900 à septembre 1905. Entre-temps, en 1900, c'est lui qui décida Edmond Rostand à venir s'y soigner l'infection pulmonaire qu'il avait contractée au moment de sa pièce « L'Aiglon ». Arrivée en novembre, la famille Rostand fut fréquemment accueillie Villa Rosaigna. Les récits que le professeur Granchet donna sur les inquiétudes de Pasteur face aux premières vaccinations captivèrent le dramaturge, si bien qu'il songea d'écrire une pièce sur Pasteur et la rage. L'idée fut reprise après sa disparition par un certain Sacha Guitry. Un jour, Jean Rostand, son fils cadet, âgé de 10 ans et déjà passionné par les sciences, reçut des mains du professeur Granchet une lettre de Pasteur qu'il conserva toute sa vie. Bien des années plus tard, en 1942, dans son ouvrage « Homme de vérité », Jean Rostand consacra tout un chapitre à Pasteur. Dans ses pages, en historien des sciences, le biologiste rappela combien l'œuvre du savant a transformé nos conditions de vie, rénové la médecine et l'hygiène, déchaîné les audaces de la chirurgie. Tout être humain qui a subi une opération et a reçu une injection de vaccin ou de sérum a contracté une dette personnelle envers celui qui révéla au monde l'activité maligne des infiniment petits. Le chef-d'œuvre de Pasteur fut moins une longue patience qu'un grand amour. Sa passion pour la vérité scientifique plongeait dans sa sensibilité. Elle avait quelque chose de physique, presque de sensuel. Pour moi, quand je pense à Pasteur, je n'évoque pas sa silhouette se proposant au pinceau de Léon Bonnat. Non, je vois un homme tout seul devant une cage qui contemple pendant des heures une bête malade. Je vois un homme qui plonge une pipette dans la gueule d'un chien enragé afin d'y espérer de la bave mortelle. Je vois un vieillard et émacié qui soutient à l'Académie le choc des meutes officielles. Dans cette âme toute brûlante, l'académicien retrouvait ce panache cyranesque, cette ivresse démesurée qui font les héros de toute espèce. Il disait, et je conclurai cet hommage au souvenir de Pasteur au Pays Basque par cette phrase, « La vérité n'eut jamais à son service de plus grand homme que ce chimiste qui, âgé de plus de 60 ans et presque infirme, violenta la médecine et affranchit l'humanité de la rage. » Merci.
Louis Pasteur et le Pays Basque, vous venez de suivre une conférence de Michel Faurier, administrateur de la Société des sciences, lettres et arts, chercheur, auteur, conférencier, conférence organisée par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur, 1822-1895, le 23 novembre 2022, dans le grand salon de l'Hôtel de Ville de Bayonne.